Il va parler des nanotechnologies. Donc maintenant, nous allons parler d'un autre sujet que va présenter Yann. Je voulais prendre le micro uniquement pour profiter de la présence de William Berthomière, directeur du laboratoire Migrinter, afin de remercier le laboratoire pour ce partenariat qui nous réunit tous de temps en temps et ici ce soir. Donc voilà, c'est la seule raison pour laquelle je prends le micro, parce que je vais laisser Yann présenter notre invité, Laura Hobson-Fort, que je remercie aussi beaucoup d'être ici ce soir. À tout à l'heure.
Je suis perdu avec la technique. Bonsoir à tous. Donc c'est un grand plaisir pour moi d'accueillir ce soir Laura Hobson-Fort, vieille amie. Merci Anne de nous accueillir une fois encore. Ce soir, la conférence va porter sur une thématique claire, un plan Marshall juif, la présence juive américaine en France après la Shoah, qui est un travail de doctorat que Laura Hobson-Fort a soutenu cette année à l'École des hautes études en sciences sociales, travail soutenu, construit sous la direction d'Anne Green, bien connue des étudiants qui travaillent sur l'immigration et des autres, j'espère aussi. Laura est maître de conférence à l'École polytechnique et elle est postdoctorante en échange entre le CNRS et New York University, NYU. Laura, à toi de jouer, merci encore.
Merci. Merci de votre accueil et j'aimerais vraiment remercier l'espace Mendes France ainsi que le labo Migrantaire et puis j'aimerais vous remercier parce qu'il fait très froid et la pluie n'est pas très voilà, accueillante, donc c'est pour être sortie de chez vous ce soir, merci, c'est un plaisir. Donc j'aimerais dans le cadre de cette conférence vous parler des résultats de ma thèse, comme Yann a dit, soutenue récemment à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, qui portait sur le rôle des organisations juives américaines en France après la Seconde Guerre mondiale. D'abord, j'aimerais vous décrire la rencontre qui est très peu connue entre juifs américains et juifs français au lendemain de la guerre. Et j'aimerais en même temps considérer la présence juive américaine sous l'angle de l'histoire de l'immigration. Avant de poser ces questions, prenons un moment pour comprendre l'intérêt d'une étude sur la présence juive américaine en France dans la décennie après la Shoah. Pendant que l'Europe était lentement libérée de l'occupation nazie, des juifs américains se mobilisaient aux États-Unis pour aider leurs co-religionnaires. La majorité des juifs des États-Unis, 5 millions au sortir de la guerre, étant d'origine ashkénaze et donc d'origine européenne, leurs liens culturels et familiaux forts avec l'Europe renforçaient leur détermination à y restaurer la vie juive. En France, on estime que 75% de la population juive d'avant-guerre a survécu à la Shoah. À la libération, la population juive de France nombrait environ 180 000 à 200 000 individus, faisant de la France la communauté juive d'Europe occidentale continentale la plus importante. Les ports français donnant accès aux Amériques et à la Palestine ont vite fait de la France un pays d'immigration pour les juifs européens après la guerre. Ces facteurs permettaient à la France d'être perçue comme l'un des seuls lieux où le judaïsme pouvait prospérer à nouveau. Paris est devenu donc une plaque tournante pour les activités américaines d'aide. Les juifs américains, et je vais, vous voyez donc une présence multiple, je vais en parler plus. Les juifs américains, plus particulièrement les femmes, se sont mobilisées aux États-Unis pour collecter vêtements et nourriture, envoyer des colis et correspondre avec des orphelins juifs. D'autres, par exemple, les militaires juifs américains, soldats et aumôniers, présents en France pour des raisons militaires, cherchaient à aider les juifs qu'ils rencontraient en libérant la France. Ces efforts venant d'en bas coexistaient avec une réponse organisationnelle plus importante, notamment de la part de l'organisation juive américaine, l'American Joint Distribution Committee, connue en France comme le Joint. D'accord. Créée à New York en 1914 pour aider les victimes de la Première Guerre mondiale. Oui, le joint, voilà, ok. Et je vais en parler, le joint, tout au long de ce topic. Alors, actif en France, tout particulièrement après 1933, pour accueillir des réfugiés juifs des terres allemandes, le joint était l'un des principaux acteurs de la reconstruction de la vie juive en France après la guerre. Et le joint a subventionné 60% de la résistance juive pendant l'occupation. Et a pu envoyer un représentant américain en France dès décembre 1944. Le joint recevait alors environ 57% des dons collectés aux États-Unis auprès des Juifs américains par une organisation qui s'appelait le United Jewish Appeal. Je vais en parler plusieurs fois. Chaque fois, je vais vous dire le nom. Donc, si jamais les noms qui sont parfois en anglais... voilà, n'hésitez pas de m'arrêter parce qu'on est un petit comité et c'est sympa d'être plus informel. L'agence, donc l'United Jewish Appeal, était l'agence centrale pour la récolte et la distribution des fonds de la communauté juive américaine. Cette organisation a été établie en 1939. En France, le Joint a versé 27 millions de dollars aux associations juives françaises entre 1944 et 1954. On estime que, par l'intermédiaire des agences subventionnées, le Joint a secouru 50 000 personnes en France en 1945, soit 25 à 28% de la population juive de l'époque. Le Joint n'était pas la seule organisation juive américaine active en France pendant cette période. La HIAS, comme vous voyez ici, la Hebrew Immigrant Shelter and Aid Society, était une organisation qui se spécialisait en immigration. Et cette organisation était active en France avant, pendant et après la guerre. Le Jewish Labor Committee, un groupe issu du monde ouvrier américain, a joué un rôle primordial pendant la guerre et a financé un programme d'aide sociale en France après la guerre. Le National Council for Jewish Women a établi un foyer et un programme de bourses pour des femmes juives en France qui voulaient étudier le travail social aux États-Unis. Et l'American Jewish Committee, une organisation américaine qui défendait les droits civiques des Juifs, a ouvert un bureau à Paris en 1947 pour travailler sur la question d'antisémitisme. Profondément anticommuniste, cette organisation a publié une revue, Évidence, à partir de 1949. Enfin, les organisations juives internationales, qui ne sont pas forcément américaines, comme le Congrès juif mondial et la World Union for Progressive Judaism, avaient leur base de pouvoir aux États-Unis. Eux aussi, ils ont établi des programmes en France dans les décennies suivant la guerre. Cette nébuleuse associative, ainsi que les efforts individuels des soldats, aumôniers et philanthropes, ont formé ce que j'appelle une présence juive américaine en France. Ensemble, leur aide a fortement influencé la reconstruction de la vie juive en France. Mais avant d'analyser comment ils ont fait cela, prenons un moment pour considérer la présence juive américaine sous l'angle de l'histoire de l'immigration. Car les Juifs américains font bien partie de l'immigration américaine en France. L'historiographie croissante sur l'immigration d'élite, ainsi que les travaux tout récents de Nancy Green sur les Américains en France, souligne le fait que l'immigration dorée, c'est le titre d'un ouvrage qui porte sur l'immigration d'élite en France, a souvent échappé à l'analyse historique, et pour de multiples raisons qu'on pourrait en parler après la conférence. Au début de mes recherches, j'ai voulu étudier les Juifs américains en France comme un groupe d'immigration, comme d'autres l'ont fait pour les Afro-Américains. Je ne sais pas si vous connaissez des ouvrages qui portent sur les jazzmen à Paris pendant les années 20, par exemple. Pour comprendre justement comment les Juifs américains, en étant un groupe minoritaire, religieux, dans son propre pays, a vécu l'expérience de l'immigration en France, où ce groupe faisait toujours partie d'une minorité religieuse, mais où le concept d'ethnicité, la construction de l'altérité, et l'expérience historique des Juifs était très différente. comme on verra, la forte présence des organisations, ma découverte personnelle, des efforts de reconstruction des Juifs américains en France, m'ont fait réorienter la problématique de mon étude pour analyser la rencontre juive américaine, franco-juive américaine, comme processus de transfert culturel. Néanmoins, j'affirme la nécessité de prendre en compte la dimension de l'immigration dans cette étude. Les individus qui travaillaient pour les organisations juives américaines, les Américains qui travaillent pour ces organisations, même s'ils n'ont pas choisi d'immigrer en France, mais ont été mutés en France, et même si leur séjour dans l'Hexagone a été souvent très court, n'étaient pas à l'abri des problèmes qu'ont les immigrés, c'est-à-dire apprendre la langue du pays d'accueil, s'adapter à la culture de la société hôte, garder le contact avec la culture du pays d'origine. Et peut-être plus important pour cette étude, ces immigrés américains venaient en France avec leur propre conception et définition de qu'est-ce que c'est la vie juive, de qu'est-ce que c'est la philanthropie et qu'est-ce que c'est le travail social. Ce fait est très important quand l'on considère le pouvoir qu'avaient ces immigrés, finalement, car ils prenaient des décisions qui influençaient fortement la reconstruction de la vie juive française. Ainsi, en vous décrivant le plan Marshall juif, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec le plan Marshall qui a lieu en même temps, je vais souligner les individus qui étaient derrière les politiques des organisations. Abordons donc les activités des Juifs américains et leurs organisations en France après la Shoah. Pour comprendre comment leur aide s'est insérée en France, il faut d'abord avoir une idée de la situation des Juifs de France au lendemain de la guerre. Les mois suivant la libération, les dirigeants communautaires tentaient à faire face aux besoins des Juifs. Géographiquement dispersés et réduits en nombre, Serge Klarsfeld, un des experts sur la Shoah en France, estime les victimes juives de la guerre à 80 000 personnes en France. Les Juifs de France étaient des survivants au génocide. Et à ce titre, ils devaient faire face à des pertes dont les conséquences peuvent difficilement être résumées ou mesurées. Ellen Baer, dont le journal a été récemment publié, s'interroge dans son journal en temps de guerre. Elle dit « En ce moment, nous vivons l'histoire. Ceux qui la réduiront en paroles pourront bien faire les fiers. Sauront-ils ce qu'une ligne de leur exposé recouvre des souffrances individuelles ?» Fin de citation. Et pourtant, nous n'avons aucun autre moyen que des mots pour décrire ce qui s'est passé. Au-delà des chiffres rapportés plus tôt, les pertes humaines détruisaient et séparaient des familles entières, laissant des enfants orphelins et des individus sans parents ni amis, dépourvus de tout réseau des relations susceptibles de les soutenir et aider. En 1944, on estime à 5 à 15 000 le nombre d'orphelins juifs en étant d'être placés. Les membres de nombreuses familles recherchaient leurs êtres chers ou attendaient le retour des camps. D'autres s'avéraient dans l'incapacité de s'occuper de leurs enfants suite aux maladies physiques et mentales. Ces pertes humaines se mêlaient à des problèmes matériels hérités des lois antisémites de Vichy, fonds de commerce et possessions ayant été confisqués et aryanisés, laissant ceux capables de travailler sans outils ni ateliers. La législation de Vichy visait également les fonctionnaires, les journalistes et les professions libérales, privant autour de 50% de la population juive française de sources de revenus à partir de l'été 1941. Les appartements et maisons qui avaient appartenu à des juifs avant la guerre étaient souvent habités et difficiles à récupérer à la libération, malgré la loi votée en novembre 1944, dans le but de faciliter la restitution des biens juifs. Dans le seul Paris, on estime à 65 000 le nombre de juifs dont les foyers avaient été pillés ou vendus. les divergences au sein de la communauté juive à cette époque étaient bien réelles. Zionistes, communistes, israélites, qui était le terme utilisé pour les juifs français qui s'identifiaient plutôt avec une identité religieuse et non éthique, ethnique de leur identité juive. Et puis, juifs, ceux qui revendiquaient plutôt une identité multiple, plutôt on dirait aujourd'hui ethnique. Ces différentes factions étaient, et divergences étaient bien réelles après l'occupation. Sur le plan collectif, la diversité idéologique se manifestait par l'existence d'un vaste réseau d'organismes d'aide sociale qui avaient survécu à l'occupation et encore d'autres qui se sont créés au lendemain de la Shoah. Mark Yerblum, qui était le président d'une association très importante, a écrit en novembre 1944 « La pagaille ici est complète, un désordre à ne pas comprendre. Les organisations et les œuvres poussent comme des champignons. Ces concurrents font double et triple emploi et le résultat de leur activité est assez stérile. La situation des Juifs ici est loin d'être bonne. Les lois de Vichy sont abolies, mais au point de vue matériel, leur entrée des Juifs dans leurs biens et leurs foyers ne se ferait pas si vite. Tout est lent et en attendant, des dizaines de milliers de Juifs restent presque dans la même situation qu'avant. Bien entendu, ils ont retrouvé leur liberté et leur sécurité. Mais ce n'est pas suffisant. Ceux qui ont occupé les places des Juifs, évincés et chassés, ne sont pas pressés de les rendre aux revenants. En attendant donc des décisions gouvernementales, il faut que nous faisions quelque chose de notre côté. Tout cela est assez triste. Je ne sais pas comment sortir de cette situation. » Fin de citation. On voit donc que les Juifs avaient besoin de nourriture, de logement, de soins médicaux et de vêtements, de l'aide à la réinsertion professionnelle, ainsi que des prêts et leur ration moyen de subsistance. Une aide juridique était souvent nécessaire pour recouvrir leurs maisons et commerces d'avant-guerre. Une fois disponible, l'aide fournie par le gouvernement français était souvent inadéquate aux besoins des Juifs français qui avaient perdu leur réseau de soutien. Les Juifs étrangers, fort nombreux à ce moment, se trouvaient dans une situation encore plus difficile, car ils étaient souvent inéligibles, comme aujourd'hui, aux aides publiques. Une brochure publiée par le Consistoire de Paris en 1946 liste 38 organisations sociales à Paris seulement, sans compter les nombreuses sociétés d'aide mutuelle et associations culturelles. Grâce aux subsides américains donnés par les organisations que vous voyez là, ces organismes permettaient de combler les défaillances de l'aide publique. Les premiers Américains à être témoins des atrocités nazies commises contre les Juifs en Europe étaient des militaires juifs américains. En effet, le Joint, l'organisation dont les Juifs américains, aussi bien que les Européens, attendaient, se trouvait freiné dans son action par des négociations avec l'armée américaine et le gouvernement provisoire français pour accéder à la France. En attendant l'arrivée du Joint, les aumôniers et les soldats juifs américains étaient confrontés à des Juifs dont les besoins urgents en nourriture, abri et autres nécessités étaient pressantes. Ils se lançaient alors dans une période numéro d'équilibriste, oscillant entre l'accomplissement de leurs tâches militaires et l'aide aux survivants juifs, qui était quelque chose qui donnait à titre individuel et pas officiel. L'aumônier Julian Nedich, pour vous donner un exemple, un rabbin âgé de 32 ans, qui deviendra plus tard le conseiller du général Eisenhower sur les questions juives, remplissait la fonction d'aumônier juif supérieur. Donc, il était responsable des aumôniers juifs à Paris à ce moment-là. Dès son arrivée à Paris, le 5 septembre 1944, donc deux semaines à peu près après la libération de Paris, il s'était rendu aux anciens bureaux du Joint, donc la deuxième organisation que vous voyez là, et il avait rencontré les représentants des organisations juives d'aide sociale. Il avait également rencontré le rabbin Julien Lévy. Cette semaine, il a assisté à l'office de libération à la synagogue de la rue de la Victoire. Il a tenu plusieurs conférences de presse au sujet de la condition de vie des Juifs parisiens. Il a rencontré le mouvement de la jeunesse sioniste et il leur a parlé en hébreu et en yiddish. Et il a rendu visite à des Juifs parisiens dans les cantines de la rue du Rosier, qui est le quartier historiquement juif dans le 4e arrondissement de Paris. Tout au long de son séjour à Paris, Judah Nedich gardait sa porte ouverte à des civils qui recevaient chaque jour dans son bureau. Il montrait ainsi une voie que d'autres aumôniers et soldats pouvaient suivre et prouvait qu'une aide directe aux Juifs de France ne serait pas punie par l'armée américaine. D'autres militaires suivaient son exemple, créant des liens forts avec ceux qu'ils aidaient. Ici, c'est une photo que vous voyez prise place de la République à Paris. Est-ce que je peux pointer? Est-ce que vous voyez la flèche? Oui. Alors, ça, c'est un enfant qui était caché par sa nourrice d'avant-guerre, juste en dehors de Paris. Sa mère était cachée dans le 11e arrondissement tout au long de la guerre, dans une chambre de bonne. Ces individus-là, ce sont des soldats juifs américains. Et ces individus-là n'avaient pas de langue en commun à part le yiddish. Donc c'était des amitiés qui se sont créées. Les deux femmes, ce sont des femmes juives polonaises qui sont immigrées dans les années 20 et 30 à Paris. On voit le même groupe d'amis pris en photo posée en studio. Donc on voit que leur amitié n'était pas seulement une affaire d'une seule journée, quelque chose qui s'est planifié. Et on se demande, parce que tous ces messieurs étaient bien sûr mariés, quels étaient les vrais rapports. Mais bon, ça c'est quelque chose à savoir. Mais on voit ici, c'était des liens d'amitié. L'enfant qui est dans la photo précédente se rappelle que c'était un peu gênant ces photos dans l'après-guerre parce que ces messieurs avaient bien des femmes à la maison. Mais passons. Donc, je vais vous parler de quelques exemples d'aumôniers et ce qui faisait réellement. Donc, sa quête pour retrouver des survivants menait l'assistant aumônier Israel Joel Phillips jusqu'à une ferme située en Normandie où il avait appris qu'un juif qui s'était évadé d'un camp de concentration se cachait sous l'identité d'un paysan français. Après une première visite, l'aumônier s'empressa de revenir pour lui donner une nouvelle paire de bottes. L'aumônier Meyer Miller a découvert une famille juive de 3 membres cachée à Bayeux, à laquelle il apportait de la nourriture, des couvertures et des vêtements. Puis, il aidait une femme de camp qui bénéficiait également de l'aide d'autres soldats juifs américains. À chacun de ses passages à Paris, il s'efforçait, de retrouver artistes et importantes figures religieuses et communautaires. Il a fourni la nourriture à plusieurs rabbins, la nourriture et des couvertures à la sculptrice Hanna Orloff et la littérature et des magazines juifs à d'autres. Il se rendait aussi régulièrement sur la rue de Rosier à Paris, où il rencontrait des juifs dans une cantine. Ceux-ci lui donnaient les adresses de leur famille aux États-Unis, auxquelles Meyer écrivait. Pendant la brève période où il était stationné à Fontainebleau, où la synagogue locale avait été détruite, Miller aidait 4 familles juives à se réinstaller dans leurs anciens foyers et les invitait aux célébrations militaires des fêtes juives. Il localisait également 15 enfants juifs qu'une femme avait cachés à proximité de Fontainebleau et organisait leur transfert vers une maison d'enfants tenue par les juifs français. Enfin, Meyer Miller a fait aboutir un don de plusieurs milliers de francs collectés par ses troupes juives américaines à destination d'une école juive française. On voit les petits gestes ici qui sont très difficiles à mesurer et quantifier. Dans la ville de Reims, l'interaction entre les militaires américains et les juifs de France était particulièrement intense, car cette ville avait une forte présence militaire bien après la libération du territoire français. Ainsi, à partir d'octobre 1944, deux aumôniers, on voit un de ces aumôniers ici, ont restauré les offices et les cours à la synagogue, tenant les offices d'abord en hébreu et en anglais, et ensuite, quand ils se sont rendus compte que personne ne les comprenait, en yiddish non américanisé, ils ont spécifié. Les familles juives de la ville ont ouvert leurs maisons, souvent vidé leurs meubles suite aux spoliations, aux soldats, et ont offert leur hospitalité en échange de la nourriture que les soldats ont souvent apportée. Donc on voit ici une femme, elle avait à peu près 11 ans à l'arrivée des Américains, et ces deux messieurs-là, c'était des soldats qui venaient souvent chez elle, et ça a pris beaucoup de temps pour que les parents de cette jeune fille acceptent que ces deux soldats l'amènent prendre une glace. C'était une grande fierté pour ces deux messieurs d'avoir la confiance de la famille pour amener leur fille prendre une glace. Et j'ai pu retrouver la femme d'une de ces messieurs. Et c'était la chose qu'elle m'a dit, donc 60 ans après. Ah, la joie quand il a finalement pu l'amener prendre une glace. Donc on voit qu'il avait quand même une méfiance envers ses présences militaires. Et finalement, les familles se sont restées en contact et sont toujours en contact. Donc, l'aide diffusée par les militaires américains est difficile à quantifier, comme j'ai dit. Et les entretiens que j'ai pu mener auprès des familles juives de Reims ont vécu cette période ont surtout souligné le soutien psychologique apporté par les militaires juifs américains. Ces Américains, qui portaient l'uniforme de l'armée américaine, symbolisaient bien une nouvelle ère et la fin de la victimisation. Avec l'arrivée de l'American Joint Distribution Committee, le Joint, l'aide juive américaine a pris une forme moins personnelle, mais est devenue beaucoup plus importante. En effet, en décembre 1944, le Joint a pu enfin rétablir son bureau en France, sous direction américaine. Le docteur Joseph Schwartz, directeur des opérations européennes du Joint, a confié à Arthur Greenlee, un Américain, travailleur social, la tâche d'entamer le programme de reconstruction du Joint en France. En 1944, ce dernier avait travaillé en collaboration avec le Joint en Italie. Avant cela, il avait été directeur général adjoint aux États-Unis pour le National Refugee Service, donc une organisation qui travaillait avec les réfugiés juifs. Dès son arrivée à Paris, Arthur Greenlee tentait, avec un détachement scientifique, de comprendre les problèmes des Juifs de France. Le nombre toujours croissant d'organismes de secours aux Juifs, aux idéologies divergentes, lui semblait, tout comme pour Mark Lehrblum, que j'ai cité plus tôt, à la fois déroutant et contre-productif. La multiplication des organismes caritatifs juifs était contraire aux principes ayant régi les structures de l'aide sociale juive aux États-Unis depuis l'entre-deux-guerres, qui cherchait à réduire au maximum le recoupement des services. Le Joint commençait donc à contrôler la façon dont son argent était dépensé et investissait ses efforts dans la rationalisation des services sociaux, en encourageant les divers organismes en France de se spécialiser et de se centraliser. En janvier 1945, le docteur Schwartz du Joint a donc rencontré les dirigeants de 3 comités d'aide principaux. Et à l'initiative du Joint, ces organismes ont fusionné pour devenir le Comité juif d'action sociale et de reconstruction, le COJASOR. Cette organisation était opérationnelle dès le mois de mars 1945. Le Joint a financé 84% de son budget entre 1945 et 1948. Si le Joint restait un partenaire fondamental pour le COJASOR, le contraire était également vrai. C'est-à-dire que grâce au COJASOR, qui avait des bureaux partout en France, l'aide du Joint pouvait être distribuée partout en France et le Joint a pu rester à Paris. Donc il a des moments où le Joint a des bureaux ailleurs, à Bordeaux et à Marseille, mais la plupart du temps, le Joint restait à Paris et était assuré que les Juifs qui avaient besoin de l'aide le recevaient par le biais du COJASOR. En plus de la centralisation des services, Arthur Greenlee tente également de responsabiliser les organisations subventionnées par le Joint. À partir du 1er janvier 1946, un rapport mensuel et annuel contenant des statistiques détaillées sur les utilisateurs des associations a été demandé aux organismes subventionnés. Ces statistiques, aujourd'hui, représentent une source très intéressante pour l'étude de l'immigration juive à cette période. Laura Margolis, qui est là, en fait, assistante sociale américaine, a remplacé Arthur Greenlee en juin 1946 en tant que directrice pour la France. Tout comme son prédécesseur, elle avait une expérience importante dans le travail social et dans la gestion des crises des réfugiés. Elle était à La Havane lors de l'affaire du Patpou Saint-Louis en 1939, en tant qu'employée du National Refugee Service, la même organisation pour laquelle le directeur Arthur Greenlee travaillait. Elle avait organisé la prise en charge des réfugiés juifs à Shanghai entre 1941 et 1942, passant l'année 1943 dans un camp d'internement japonais. Juste avant d'arriver en France, elle avait travaillé comme directrice du Joint en Belgique. Convaincue de la nécessité d'encourager l'autosuffisance des Juifs de France, elle critiquait dès son arrivée en France, et je la cite, « la politique de laisser-faire pratiquée depuis déjà 2 ans à l'encontre des organismes français subventionnés ». Fin de citation. Laura Margolis a commencé immédiatement à rectifier le tir en se fixant 3 objectifs. D'abord, réduire le nombre des organisations juives françaises. Deuxièmement, renforcer les liens entre elles. Troisièmement, réduire la présence du Joint en France. Des signes encourageants montraient à Laura Margolis qu'elle progressait. Lorsqu'elles étaient confrontées à l'énorme défi que constituait l'immigration juive de Pologne vers la France, qui s'est intensifiée pendant l'été 1946, après surtout le programme de Kielce en juillet 1946, les organisations juives en France se sont mobilisées, d'abord individuellement, puis à la demande du Joint et du gouvernement français. Ils ont créé le Conseil Anteuvre d'aide aux immigrés et transitaires juifs. Cet organisme regroupait 17 organisations juives et représentait une nouvelle façon de travailler ensemble, qui était bien un modèle d'action collective. Donc avant, les organisations travaillaient tout seules. Là, ils ont pu enfin faire quelque chose ensemble. Mais c'était à l'automne 1947 que Laura Margolis a initié un plan à long terme visant à importer en France le modèle juif-américain de collecte de fonds. Il s'agissait de coordonner les multiples composants de l'aide sociale en France, puis à terme, remplacer le Joint par la nouvelle organisation née de ses efforts. Laura Margolis s'est inspirée de la structure de l'United Jewish Appeal, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'organisation qui était créée en 1939, qui centralisait et répartissait les fonds collectés auprès des Juifs américains. Quand elle a soumis son projet au Dr Schwartz, ce dernier ne cachait pas son scepticisme, lui demandant « Laura, allez-vous essayer de faire de bons Américains avec des Français ?» Elle a obtenu toutefois carte blanche. Après s'être entretenue avec les dirigeants communautaires, notamment avec le baron Guy de Rothschild, un comité directeur provisoire a été créé. La nouvelle organisation a adopté le nom de Fonds social juif unifié en mars 1948, et au terme de 2 ans de préparation et de nombreux conflits, le Fonds social juif unifié a tenu son assemblée fondatrice en octobre 1949. En juillet 1953, le Joint a annoncé le transfert de plusieurs de ses départements vers le Fonds social juif unifié, faisant remarquer que, je cite, « la responsabilité directe de la planification au niveau communautaire et la répartition des fonds collectés localement et attribués par le Joint ont été remises entre les mains de la communauté. » Fin de citation. Même si cette phrase n'est pas vraie, le Joint avait toujours une influence importante dans les affaires juives françaises jusqu'aux années 1960. elle nous permet d'apprécier la vitalité de comment cette joint structure a été perçue par le joint. Pendant que le bureau du joint pour la France préparait la création du Fonds social juif unifié, d'autres sièges européens du joint, également à Paris, se tournaient vers l'avenir. Critique des méthodes de travail social, des œuvres sociales juives en Europe, le chef du département de l'action sociale du joint, Herman Stein, encore un Américain, et lui était enseignant de travail social à la New York School of Social Work, qui est devenue l'Université de Columbia. Herman Stein donc a suggéré en octobre 1948 que le joint établisse une école américaine de travail social en Europe. Un an plus tard, en octobre 1949, le joint a inauguré à Versailles, au château de la Mai, l'école de service social Paul Berwold. Paul Berwold était le président du joint pendant la Deuxième Guerre mondiale et un philanthrope bien connu aux États-Unis. L'école proposait un programme d'études sur un an sur les méthodes américaines de travail social et, dans son programme résidentiel sur 4 ans, elle formait environ 120 élèves venus d'Europe, d'Israël et d'Afrique du Nord. Le programme résidentiel à l'école a pris fin en automne 1953, mais son personnel enseignant, qui était américain pour la plupart, là vous voyez une photo, donc son personnel enseignante continue à travailler tout au long des années 50, donnant des formations à travers l'Europe et l'Afrique du Nord. En 1958, après de longues négociations, l'école a été réouverte à l'Université hébraïque de Jérusalem, où elle continue à œuvrer jusqu'à ce jour. Par le biais de ces formations continues, qui ont eu lieu donc après la fermeture de l'école à partir de 1953, l'école par Berwold encourageait l'émergence d'une nouvelle identité professionnelle parmi les employés des organisations d'aide sociale juive française. Ces individus prenaient des séminaires ensemble. Donc encore une fois, on rompt le modèle des organisations qui travaillent tout seuls et en prenant tous les chefs de service, on crée une identité professionnelle. L'action sociale juive en France commençait donc à être comprise comme une entreprise collective en multiples facettes, avec un corps professionnel spécialisé et non plus comme un ensemble chaotique d'agences individuelles. Excusez-moi. Je suis vaccinée. J'espère pas. Bon. Encore un peu. Bon. Je vois l'heure qui passe, c'est normal. Donc, une dernière partie. Le domaine de l'éducation et de la culture juive, jusqu'alors négligée dans la politique française du joint, ont pu enfin recevoir un soutien institutionnel, ce qui me faut ma voix, à la fin des années 1940, avec l'objectif d'encourager l'affiliation au judaïsme grâce à l'éducation. Le docteur Judah Shapiro, le directeur qui était également américain du département de l'éducation du joint, se montrer moins concerné par le souhait de ses supérieurs de se retirer de la France et au contraire proposer de nouvelles initiatives qui augmentaient la participation américaine à la vie juive française. Avant que j'oublie, une dernière photo de l'école Paul Berwold, les élèves à l'école. Donc Judah Shapiro, en 1952, s'inspirait de la vie juive américaine et de la possibilité d'une subvention rare, une opportunité qui s'est présentée, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui passait par la Fondation Ford. Le docteur Shapiro a donc proposé la création d'un centre communautaire juif à Paris. Cette structure n'était pas tout à fait nouvelle en France, il avait des exemples dans les années 20-30 des mêmes expériences, mais elle restait presque inconnue en France à la fin, au début des années 50. Outre-Atlantique, par contre, elle était vue comme la solution au maintien de l'affiliation juive. En effet, aux États-Unis, dans les années suivant la Seconde Guerre mondiale, les centres communautaires, qui avaient des installations sportives, des classes et des synagogues, représentaient un moyen pour une population peu traditionnaliste d'exprimer une affiliation au judaïsme, même s'il s'agissait d'un saut dans la piscine. En France, le centre communautaire était vu comme une solution à un autre problème, l'intégration des réfugiés. Pour le docteur Shapiro, le centre communautaire représentait un endroit où les juifs français et les juifs installés en France depuis longtemps pourraient participer à un programme d'activité dans lequel l'élément réfugié serait également inclus, avec l'espoir que celui-ci amène à une intégration plus importante de ces derniers. Décidément, la voix part avant la fin. Ça va passer.
Oui, mais...
Non, je ne sais pas. J'ai été vaccinée hier contre le grippe. Donc peut-être c'est le vaccin qui... Non, on verra.
C'est pas actif.
Bon. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. On a le temps. Bon. Oui, ça va passer. Bon. En septembre 1953, le Joint donc, a été informé qu'elle a bien reçu la subvention de la Fondation Ford et du Haut Commissariat. Et une subvention de $50,000 leur a été accordée pour établir un budget total de $100,000 pour la création du centre communautaire à Paris. En 1955, le centre a ouvert ses portes et en juin 1956, il avait déjà 800 membres. Grâce à l'argent des réparations allemands distribuées en France, surtout entre 1954 et 1964, les centres communautaires ont pu se répandre en France. En 1957, il y avait notamment à Belfort, à Laon, à Rouen et à Lyon. En attendant, voilà, on va passer à la conclusion. Hein. Donc, résumons comment cette aide américaine a influencé la reconstruction de la vie juive en France après la Shoah. Donc, on voit qu'en attendant une solution plus organisée de la part du Joint, l'aide fournie par les militaires juifs américains soulageait les juifs de France au cas par cas et au plus qu'une façon. Mais c'était surtout le Joint qui a pu distribuer une aide importante à un réseau des organisations d'aide sociale. Il faut noter que ces subventions ont permis à l'expansion de l'aide sociale juive privée, un secteur particulièrement important pour des individus qui ne pouvaient pas bénéficier des aides publiques. En décembre 1945, par exemple, seulement 25% des hommes et 31% des femmes aidées par un organisme subventionné par le Joint avaient la nationalité française. Tous les autres, donc à peu près trois quarts, étaient des étrangers. Les efforts du Joint pour centraliser les services, amenant à la création du COJASOR, par exemple, ont permis aux étrangers d'avoir un interlocuteur de poids auprès des autorités françaises d'immigration. De même, en imposant la récolte des statistiques dans les œuvres subventionnées, le Joint a introduit une nouvelle pratique qui nous permet de comprendre les évolutions de l'immigration juive en France, ce que les statistiques officielles ne permettaient pas. Et avec la création du Fonds social juif unifié en 1949, le Joint et les dirigeants français ont réussi à rompre avec la logique de chacun pour soi, qui dominait l'action sociale juive après la Shoah. Dorénavant, les composants de l'action sociale juive récoltaient leurs fonds et les distribuaient collectivement. Cela impliquait une plus grande planification des ressources, rendant l'action sociale plus efficace en temps de crise. Et on voit cela surtout pendant l'été de 1962, l'été avec l'arrivée massive des Juifs d'Algérie. L'attention que le Joint a portée sur la formation professionnelle des travailleurs sociaux a contribué à diffuser des méthodes américaines de travail social en France, méthodes qui mettaient l'accent sur le développement des critères objectifs de prise en charge, de confidentialité et du respect du client, même si on peut débattre l'origine de ces pratiques et puis comment est-ce que le Joint les a, pourquoi le Joint les a aimés autant, etc. Finalement, avec l'importation des sangs communautaires, on voit que le Joint a transmis aux Juifs de France une structure qui permettait un mélange plus heureux de la vie religieuse et les activités culturelles. Enfin, on peut noter que le Joint a utilisé la communauté juive américaine comme modèle pour la France. On peut débattre le succès de leur tentative d'importation, mais on ne peut pas nier que d'un point de vue structurel, la communauté juive française, j'utilise des guillemets, avait incorporé ces changements. Comme aux États-Unis, les Juifs de France avaient leur United Jewish Appeal, le Fonds social juif unifié. De même, l'action sociale juive française a subi un processus de rationalisation selon un modèle américain. Enfin, une nouvelle structure, les centres communautaires, a permis l'expression d'une identité juive pluraliste qui dépassait l'aspect religieux et les divergences idéologiques. Avant de terminer, retournons à la question d'immigration et la présence juive américaine. On voit bien que c'était des immigrés, dont Arthur Greenlee, Laura Margolis, Herman Stein et Judah Shapiro, pour citer juste quatre, qui ont réussi à imposer des changements profonds dans la structure de la vie juive française. Ces personnes avaient un profil sociologique similaire. Tous étaient des juifs américains. 3 sur 4 avaient une formation en travail social d'une université américaine. Ces individus sont venus en France en utilisant les concepts et le langage de la communauté juive américaine à la recherche de ce qu'ils ont appelé la communauté juive française. Alors que tous ont fait des efforts pour comprendre les Juifs de France, seulement Laura Margolis, à ma connaissance, parlait bien le français. Dans une pièce comique, écrite en juin 1945 et qui parodie le fonctionnement du bureau parisien du Joint, Arthur Greenlee y est décrite comme un maître exigeant et obsédé par le temps, bref, le stéréotype d'Américain. On le voit par exemple crier en anglais « Bon sang, ces satanés français ne font que gaspiller leur temps, et pas que le leur. Envoyez-le dans mon bureau dès qu'il arrive, et vite, ça va bavarder. Non, mais qu'est-ce que c'est ça, cette organisation ?» C'est à quoi Lieselotte, une secrétaire française et probablement l'auteur de cette pièce, répond « Vous ne vous attendez pas à une réponse, monsieur, n'est-ce pas ?» Effectivement, la présence juive américaine en France après la Seconde Guerre mondiale représente un exemple de l'américanisation de la France à l'échelle d'une communauté, mais également une façon de repenser l'immigration, c'est le terminologie de Nancy Green, selon laquelle, comme dans une mise en abîme, ce sont des immigrés qui gèrent l'immigration. Je vous remercie.
Merci Laura, je suis content que ta voix ait quand même tenu jusqu'au bout. C'est toujours compliqué, mais tu te souviendras du climat Poitevin, comme ça, légèrement humide, etc. Plus sérieusement, pour revenir sur ce que tu disais, je crois qu'on peut voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire, quiconque s'intéresse à la communauté juive aujourd'hui, la communauté juive de France, croisera des sigles dans les mémoires familiales, dans les mémoires communautaires, le FSJU, le Joint, tous ces noms-là sont des noms extrêmement familiers aux Juifs de France, mais je ne suis pas certain, effectivement, que l'histoire de ces institutions le soit. Et effectivement, on est dans une petite échelle de temps, très courte à l'échelle de l'histoire, évidemment, qui montre une intense activité qui va remodeler en profondeur tout ce que l'on appelle aujourd'hui la communauté juive française. Il y a beaucoup de choses, mais par exemple les fameux centres communautaires. Alors je ne sais pas si à Poitiers il y a un centre communautaire.
Je ne sais pas.
Il y en a un. Bon, on est face à quelque chose qui arrive même dans un lieu qui n'est pas un lieu d'immigration juive très particulier, le Poitevin, le Poitou-Charentes, et dans un lieu où probablement il y a eu une immigration juive très limitée. Donc on avait aussi
Ou bien pendant la guerre.
Tu as raison. Mais pour le coup, on est dans une structure américaine qui modifie même la vie juive provinciale. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et on y voit la trace, effectivement, comme tu le dis, d'une américanisation à l'échelle de la société. Et je trouve ça... D'une communauté. Et ça, c'est extrêmement intéressant, je crois, aussi, d'arriver à le mettre au jour, parce qu'il y a d'autres communautés en France aussi, effectivement. Mais là, on est dans un temps court, une histoire extrêmement complexe, une histoire qui est faite de violence, et une histoire qui est faite d'immigration. Et donc, je crois que c'est extrêmement intéressant, effectivement, de faire le voyage dans le temps qui nous conduit vers cette immigration dorée, cette immigration d'élite, cette immigration américaine. Je voudrais aussi souligner d'autres choses. Au-delà de ces sigles, de ces associations connues, on y voit une méthodologie de recherche intéressante. Alors, je mets un petit peu ça, le doigt dessus pour nos étudiants, mais je crois que c'est valable aussi pour les gens qui ne font pas des études dans ce domaine-là. On voit, ou qui ne font pas d'études du tout d'ailleurs, on voit... Tout le monde qui est ici. Mais on voit quelque chose qui est bien, c'est-à-dire que tu pars de la mémoire individuelle, une mémoire communautaire. Pour la petite histoire, aux archives, je crois que je croise beaucoup la fille de Denise Marx, hein, c'est celle-ci.
Oui, que j'avais rencontrée dans les archives.
Voilà, on voit une histoire communautaire qui est faite avec une mémoire individuelle, qui est faite des gens qui ont été aidés, des gens qui ont aidé. Et puis peu à peu, tu passes à une échelle intermédiaire d'analyse qui est celle des associations. Et je crois que ces transferts comme ça en termes de méthode entre la mémoire individuelle, la mémoire familiale, et puis une mémoire beaucoup plus générale, et des fonds d'archives, etc., méritent d'être soulignés pour ceux qui travaillent un petit peu sur l'immigration. Et je voudrais dire une dernière chose, c'est qu'on voit, dans ce que tu expliques, de cette américanisation communautaire, se dessiner une nouvelle histoire de la philanthropie. Et je crois que c'est très intéressant aussi d'imaginer que les associations... Alors, est-ce que le modèle a fait école au-delà des écoles juives ? Je pense que oui. C'est-à-dire le fait d'une aide sociale qui ne soit plus face à face, d'une aide sociale qui est rationalisée, une aide sociale qui ne se contente plus d'un rapport interindividuel, mais avec des enquêtes d'assistante sociale, etc. Tout ça vient, aujourd'hui, qui est enseigné, je crois, dans la plupart des écoles. Rappelle-moi le nom de... Comment ça s'appelle, cette méthode ?
L'école Paul Blanc-Rod ?
Non, la méthode, justement, de rationaliser.
Le casework.
Le casework, c'est quelque chose qui est extrêmement enseigné aujourd'hui dans les écoles d'assistante sociale en France, etc. Et tout ça... vient une fois encore d'un transfert culturel et d'une immigration entre guillemets d'élite américains qui sont venus en France. Et donc on y voit beaucoup de clés, non pas pour la simple histoire juive, mais aussi pour l'histoire de la France de façon générale. Voilà, je te remercie en tout cas. Merci.
Merci à vous. Je voulais noter que vous avez cité Hélène Baer et j'y pensais justement avant votre conférence. Et je souhaiterais qu'il soit distribué à tous les collégiens en troisième. Ça éviterait aussi beaucoup de discours parce que c'est un livre extraordinaire qui devrait être lu au même titre que le journal d'Anne Frank. Et là, il est paru en poche, préfacé par Modiano. Donc j'étais ravie que vous parliez de Hélène Baer parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Donc merci Laurent, en tout cas, c'était très intéressant. Donc, je passe la parole à la salle. Il faut passer le micro.
Oui, je sais pas, c'est une inattention de ma part, mais je n'ai pas tellement vu apparaître les autorités juives françaises à votre exposé. Quel type de réaction et relations elles ont pu avoir avec donc les juifs américains en général, enfin, et notamment ceux qui les dirigeaient. Et aussi les autorités françaises tout court, si je puis dire, les autorités républicaines, disons, amis, élus, etc. Je veux savoir un peu comment tous ces gens-là ont plus ou moins vécu la chose, si je
puis dire. Oui. Donc, quelle était la réponse française à cette aide américaine ? Donc, je peux commencer déjà par les rapports dans l'après-guerre avec le gouvernement français. Et puis, je vais répondre pour les questions des Juifs français. Je ne peux pas citer énormément de cas de contact entre le Joint et le gouvernement français. J'ai cherché dans les archives, aux archives nationales, justement, pour trouver des traces du Joint. Sans beaucoup de succès. Alors, finalement, où est-ce que j'ai cherché ? J'ai cherché dans les archives du ministère des prisonniers, des déportés, des prisonniers de guerre, qui était donc responsable de s'en occuper des déportés. Et ce que j'ai vu, c'est qu'ils font, dans mes recherches, ils ont fait référence une fois au Joint. C'est clair qu'ils connaissaient bien le Joint, mais je sais cela des archives du Joint. Qui dit beaucoup plus sur les autorités françaises. Donc, le ministère a donné son mandat à une organisation qui s'appelait le COSOR. C'est une organisation qui était créée pendant l'occupation. c'était le père Chaillet qui était responsable de cette organisation pour aider les familles des déportés. Donc le COSOR avait la responsabilité d'aider les familles des déportés, que ce soit des familles françaises ou étrangères. Si la personne était déportée de France, le COSOR avait le mandat de l'État. Donc ce que j'ai trouvé dans les archives, c'est les correspondances et les rapports qu'avait le joint avec le COSOR, qui n'est pas l'État, mais qui représente l'État dans ces affaires-là. Et les peu d'échanges étaient assez tendus. D'abord parce que le COSOR n'avait pas suffisamment d'argent pour faire son travail et ne cessait pas de revenir vers le joint, qui pensait, ouais, ce sont des Américains, ils sont riches. Donc en demandant que le joint s'en occupe exclusivement des Juifs. Ce qui, dans le contexte de Vichy, de l'après-guerre, faisait frissonner les individus du joint qui disaient, ce n'est pas dans l'intérêt de la nation, dans la République. Si nous, on s'en occupe exclusivement des Juifs, et vous décidez de ne plus vous en occuper, ça implique les catégories raciales qui ont été bien terminées après la guerre, ont été bien intactes. Et donc, le joint a refusé d'accepter la proposition de COSOR de s'en occuper des Juifs, etc. Mais j'ai quand même trouvé une lettre qui expliquait que les Israélites seront aidés dans un bureau à part que les autres. Donc, ce sont des choses, je ne veux pas prononcer d'un antisémitisme d'après-guerre, parce que c'est quand même une œuvre qui a fait énormément de bien pour les Juifs pendant la guerre, le COSOR. Notamment le père Chaillet, ils ont caché beaucoup d'enfants. Il avait également des tensions avec le père Chaillet pour qu'il donne les listes des enfants cachés dans les institutions dans l'après-guerre, pour que ces enfants soient remis à la communauté juive ou à une contact avec la communauté juive. Donc il y a quand même des tensions, mais ça demande beaucoup plus d'études avant de prononcer s'il avait quelqu'un de... voilà, si c'était une question d'antisémitisme d'après-guerre ou non. Donc, en même temps, on voit que, par exemple, le joint avait des rapports avec le gouvernement français. L'exemple que j'ai cité pour l'immigration polonaise, on voit que le joint assurait parfois la prise en charge financière des immigrés qui arrivaient illégalement en France, les immigrés juifs qui arrivaient illégalement de Pologne. Mais ce n'était pas dans l'intérêt du joint, parce qu'ils ne voulaient pas payer pour tout le monde, et ce n'était pas non plus dans l'intérêt du gouvernement français d'avoir les frontières ouvertes, même si on est dans une période où on a besoin de... Voilà. Et oui, c'est dans l'intérêt... Excusez-moi. Non, c'est dans l'intérêt du gouvernement français, mais ils ne veulent pas que... qu'une énormément d'une population assistée s'ajoute à la France à ce moment-là. Donc le joint prend en charge financièrement ces individus-là et le joint essaie de faire en sorte que ces personnes continuent leur migration, soit vers la Palestine à ce moment-là ou vers les États-Unis. Donc le joint a un grand intérêt de faire immigrer les individus. Mais pour répondre à la question, donc, comment est-ce que les Juifs de France répondent à cette aide? Avec beaucoup de gratitude et beaucoup de conflits. C'est très mélangé et ce que j'ai décrit, c'était vraiment le côté américain, mais de temps en temps, j'espère que j'ai pu sous-entendre qu'il avait des tensions. Quand les Américains, quand Arthur Greenlee, par exemple, veut responsabiliser les Juifs de France et les organisations, quand Laura Margolis dit bah, « c'est quoi cette politique de laisser faire auprès des organisations juives françaises ?» C'est une attitude qui vient de l'extérieur, qui a été perçue souvent comme une condescendance. Et donc, même si les Juifs de France n'ont pas oublié que le joint a subventionné la résistance juive pendant l'occupation et est resté active tout au long de la guerre, y compris entre 1942 et 1944, par le biais des représentants, le joint avait des représentants français qui géraient l'organisation, comme les Américains ne pouvaient pas être présents en France à ce moment-là, Les gens n'ont jamais oublié ce que le joint a fait, mais dans l'après-guerre, les choses sont devenues beaucoup plus compliquées avec l'aide qui a pris de l'ampleur. Et c'était l'expérience de la guerre qui n'était pas vécue par les Américains, mais vécue par les Français. Et puis les Américains qui viennent en donnant, bien sûr, des leçons sur comment faire. Donc une situation compliquée qui n'est pas tout à fait la même chose que des rapports franco-américains au même moment en France, mais qui reflète beaucoup de ces tensions qu'on voit dans la presse française à partir de 47, 48, même bien avant. J'ai répondu à... Oui.
Attendez, pardon, monsieur.
C'est, quelle relation, en fait, avec le mouvement sioniste ? Ce apparemment reconstituer une communauté juive en France,
oui.
C'est antagonique avec le projet qu'est le projet sioniste de migration massive
c'est
vers la Palestine.
C'est une très bonne observation. Oui.
Comment, effectivement, oui, oui. Ça s'arrange ? Il y a des conflits, il y a une tentative pour pénétrer le joint de façon à, malgré tout, faire délivrer le message sioniste et aider à l'immigration vers la Palestine. Comment ça fonctionne ?
Oui, 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 ouais. C'est une très bonne question. En fait, du fait que le joint veut reconstruire le judaïsme en Europe, veut soutenir le judaïsme en Europe après la Shoah, ça montre que l'organisation avait quand même une tendance diasporique, si je peux utiliser ce mot. Et en même temps, les individus comme Laura Margolis, dont j'ai parlé tout à l'heure, elle est immigrée en Israël en 1953. Une fois qu'elle a été assurée que le Fonds social juif et une fille allaient bien prendre les choses en main, elle est partie et en fait elle s'est mariée avec Marc Yerblum, qui était un des zionistes de France le plus connu. Le monsieur que j'ai cité dans la présentation, ils se sont mariés, ça a fait scandale, et ils sont partis ensemble. Donc c'était intéressant, on peut noter donc, que c'était une zioniste convaincue qui a mis en place un programme qui assurait l'avenir de la vie juive en France. Et cette femme également, Laura Margolis, d'après une source qui n'est pas confirmée, mais une source, quelqu'un qui avait fait un entretien avec elle pendant qu'elle était en vie, a dit qu'elle finançait souvent l'immigration illégale vers la Palestine. Donc, je crois que dans les archives du Joint, moi, je n'ai pas trouvé de traces d'un soutien de l'immigration clandestine vers la Palestine avant 48. Mais on voit qu'après la création de l'État d'Israël en 1948, le Joint continue à donner de l'argent pour la France. Et les subventions du Joint pour la France baissent légèrement, mais vraiment même pas 5 ou 10 %. C'est pas énorme. Donc on voit que la France reste une priorité pour le Joint, même après la création de l'État d'Israël. Ce qui montre quand même un engagement. Voilà. Oui.
Tu me confirmes si je dis une bêtise, mais j'ai pas les chiffres en tête, mais entre le début de la Première Guerre mondiale et la fin, avec l'immigration qui arrive de l'Europe de l'Est, la population juive n'a pas baissé en nombre, c'est plus les mêmes bien sûr, mais il y a une immigration juive qui continue à venir en France à partir de 44-45, donc oui. Ils n'ont pas le choix en plus. S'ils veulent aider, il faut malgré tout aider pour que la France soit aussi un pays de transit, et on sait très bien quand il y a des migrations de transit, il y a des installations oui. aussi. Donc,
mais ça a pris bien quelques années pour que je dirais à la fin, au début des années 50, la population a trouvé à peu près 250 000 personnes, si je ne me trompe pas. Et on ne sait toujours pas combien de Juifs il avait vraiment en France avant la Deuxième Guerre mondiale. Klarsfeld, il fait une estimation en disant que 10 % ne sont pas faits recensés. Et ça, c'est pas très scientifique. On ne sait pas. Donc, on pense qu'il avait entre 300 000 et 330 000 personnes juives en France avant la guerre. Mais à vrai dire, on ne sait pas.
Et en 54,
Dans les années 50, c'est à peu près 250 en 50, et puis 55, ça approche 350, et puis il y a donc l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord qui commence à partir de 55, 56, 57, voilà.
Est-ce Est-ce qu'on peut chiffrer à peu près le pourcentage de juifs qui ont immigré en Israël ou en Amérique, les juifs français, bien sûr.
Oui. Alors, c'est intéressant, on ne peut pas chiffrer le nombre de juifs qui sont partis aux États-Unis après la guerre.
Non.
Il faut faire l'étude. on sait que l'immigration aux États-Unis, à ce moment-là, est très fermée. Jusqu'au DP Act, il y a une directive importante, le Truman Act de 1947, et puis ensuite, le DP Act de 1948, si je ne me trompe pas dans les dates. Bon, et c'est là où qui a un peu ouvert l'immigration américaine, mais un tout petit peu, et on voit pas de toute façon une grande immigration de la France vers les États-Unis ni vers Israël. Et un des résultats, si je peux rester modeste, je pense fortement que cette aide très importante des organisations juives américaines après la guerre a permis à une reconstruction économique auprès des juifs de France dès 1944. Et pour vous donner un exemple, ils ont mis de l'argent pour des prêts à 0%, ce qu'on appelle aujourd'hui le microcrédit. Alors, ce système est quelque chose qui existe depuis toujours dans la communauté juive. Un prêt à 0%, ça fait partie des lois juives, presque. Mais on voit que le joint a augmenté et a mis en place des fonds. Et puis, les gens ont pu faire des dossiers de prêts. Et 23 500 personnes ont bénéficié de ces prêts après la guerre. Donc, si on considère l'échelle, ça serait très intéressant de faire une étude économique de qu'est-ce que ça représente. Mais finalement, les individus, dès qu'ils ont commencé à reconstruire leur vie, immigrés 3 ans après.
Voilà, donc, ils sont restés sur place.
Dans un pays qui était en guerre quand même, et puis avec un avenir plus stable. Donc, il y a très peu d'immigration juive vers l'État d'Israël. Je crois que dans la première année, c'est à peu près 2000 personnes, si je ne me trompe pas.
Très peu. C'est quel lien y a-t-il entre l'initiative privée juive et la politique américaine?
Alors,
parce que c'est il y a effectivement cet aspect-là, parce qu'il y a malgré tout, vous faites état, par exemple, d'une absence de communication avec les autorités françaises.
Oui.
On ne peut pas oublier que quand
en archive, voilà, je n'ai pas trouvé de la trace.
Mais malgré tout, c'est aussi ça. C'est aussi le fait que cette administration a du mal à s'installer. Il y a aussi ça.
Oui.
Il y a quand même aussi un projet, qui est le projet Amgod, qui est un projet d'occupation de la France par les États-Unis.
Oui.
Est-ce que, justement, cette aide s'articule avec ce projet?
Oui.
Alors, en particulier, comme vous dites, qui est l'un des effets, qui est quand même une américanisation l'immigration juive.
Alors, le titre de...
Et puis juste une autre question, comme ça va être très... C'est, est-ce qu'il y a des gens qui sont restés?
Ah.
Des migrants américains qui seraient restés, qui ont fait souche en France.
Alors, je vais vous montrer une photo. Je peux répondre facilement. Alors, une photo des dames qui sont ici dans cette photo. On voit que...
vous voyez la flèche?
Voilà. Ça, c'est Shirley Hellenbrand. Elle est restée en France jusqu'en 1956. Et elle est retournée aux États-Unis pour faire son doctorat à Columbia University. Et puis, elle est restée aux États-Unis, mais tous les étés, dès qu'elle terminait l'année scolaire en mai, elle prenait son avion pour la France. Et elle travaillait au sein de l'organisation œuvre au secours aux enfants, l'OSE, qui est connue par certains comme l'OSE. Elle travaillait tous les étés, elle faisait des formations avec les salariés de cette organisation jusqu'au moment où elle n'a pas pu voyager. Elle est toujours en vie, elle vit à New York et elle aurait bien aimé être là ce soir parce que ça lui manque beaucoup, la France. Cette femme-là, Frida Goldsmith, elle vient de Détroit et elle est morte en France. Donc, après la fermeture de l'école Port Béovold, elle avait donné des cours de travail social dans les institutions françaises, dans les universités. Elle avait fait des séminaires sur le casework, sur les méthodes américaines. On voit que ça, c'est M. Selver. C'est un juif allemand qui était immigré aux États-Unis, je crois, dans les années 30. Je ne sais pas à quel moment exactement. Lui, il est mort très jeune, mais il est resté en France bien après la fermeture de l'école. Et puis, quand il s'agissait de déménager l'école en Israël, c'est là où je crois qu'il est parti pour rester le directeur de l'école. Donc, on voit les parcours différents. Ce monsieur-là, et ça répond un peu à votre question, monsieur, sur les rapports entre les Juifs de France et les Juifs américains. Ce monsieur-là, il s'appelait Harry Rosen. Il était envoyé en France pour établir le Fonds social juif unifié. C'était un expert en récolte de fonds. Et en fait, je crois qu'il parlait très mal le français. Et surtout, les Français avaient une mauvaise perception de lui. Est-ce que vous le connaissez, monsieur? Non? Bon, j'aurais bien aimé que si quelqu'un peut me confirmer cette information, ce serait mon rêve. Ils ont décidé de le jeter violemment de la France. Donc, il avait un an où il avait enseigné au sein de l'école Port-Béavol, mais finalement, il était renvoyé aux États-Unis. Avec une grande colère, et les Français ont dit si il s'agit de travailler avec lui, on travaille pas avec vous, et puis basta. Et Laura Margolis a dit bon, c'est moi qui vais travailler avec vous, et c'est une femme plus diplomate qui parlait le français, ce qui aide quand même si on est en France. Bon, donc l'autre partie de votre question est plus compliquée. Donc quel est le lien entre le plan Marshall juif? Et ce n'est pas moi qui a créé cette formulation, c'est des responsables communautaires qui parlaient dans les années 60, 70, 80, qui regardaient cette période comme une période de plan Marshall. Mais finalement, il n'y avait pas un fort lien entre le plan Marshall américain et ce plan Marshall à l'échelle de la communauté juive. La seule connexion qu'il avait, c'est que le Joint était une de plusieurs organisations américaines qui avait une statut qui était enregistrée comme organisation américaine, qui donc pouvait bénéficier des aides du plan Marshall, c'est-à-dire qui avait des remboursements sur les articles, à la fois la nourriture et les vêtements qu'ils envoyaient en France. Donc, ils recevaient, sous le plan Marshall, des aides du gouvernement américain. Mais ce n'était pas énormément d'argent. Et ça s'est arrêté alors qu'ils continuaient leur travail en France. Et de façon politique, c'est une autre question. Et voilà, ça, c'est la vraie question. Alors, le Joint a toujours dit qu'il était apolitique. C'est-à-dire pour travailler dans les pays où elle travaillait, parce que où il travaillait, le Joint était également présent en Europe de l'Est, et présent en Tchécoslovaquie, présent en Union soviétique, présent partout en Europe. Donc, ce qui se passait à partir de 1948 les tensions qui ont pu exister entre l'État d'Israël et l'Union soviétique avaient des percussions très importantes sur le travail du Joint, y compris en France. Si vous connaissez l'affaire des blouses blanches, par exemple, une affaire où 9 médecins, 13 médecins, dont 9 juifs, sont accusés d'un complot meurtrier des autorités soviétiques. Le Joint est ciblé dans cette affaire-là comme une organisation d'espionnage américain. Et sioniste et espionnage américain. Donc le Joint, à ce moment-là, à Paris, a beaucoup de problèmes. À la fois, la presse communiste française parle du Joint. Et le journal Ce Soir, qui est un journal qui n'apparaît plus, avait une série de 9 articles sur le travail du Joint, y compris en France et ailleurs. Et la presse juive communiste parle du Joint de façon très négative. Et la presse yiddish zioniste parle du Joint de façon très négative parce qu'ils subventionnent les communistes. Donc tout le monde commence à attaquer le Joint. Et le Joint dit c'est injuste, on est apolitique, on est présent en Union soviétique parce qu'on veut aider la population, et basta. Après, est-ce que le Joint avait vraiment une rôle politique? On sait que le Joint a financé une organisation soviétique qui s'appelait Lishka, qui était une organisation d'émigration pour aider les Juifs à quitter l'Union soviétique. Et les gens étaient subventionnés, une partie de cette organisation. Donc, c'est vrai que la ligne entre la politique et la bienfaisance ou l'action sociale est floue. L'autre chose, c'est l'American Jewish Committee. Était une organisation, donc j'ai très peu parlé des autres organisations, je les ai juste évoquées, mais l'American Jewish Committee était beaucoup plus politisé que le Joint, et le Joint préférait cette situation. Comme ça, comme le Joint travaillait dans le domaine de l'action sociale, c'était considéré comme peu politique, et donc du coup, même si ça l'était, il laissait les questions politiques et juridiques à l'American Jewish Committee, qui était profondément anticommunistes. Et leur revue Evidence avait le but de transformer l'opinion publique en France et d'éviter, à la fois au sein de la communauté juive, mais aussi ailleurs, une virement vers l'extrême gauche. Donc, si on lit Evidence, on voit une vraie tentative et on voit qu'ils avaient des statistiques très précises sur qui lisait le journal, donc la revue. Donc, on voit qu'il avait un grand but de propagande derrière. Voilà. Oui, 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 oui. On était dans la guerre froide.
Comment ? Ah non, je disais juste classique pour l'époque. On sait bien quand la guerre froide s'installe, voilà. Effectivement, tout est fait pour monopoliser les opinions d'un côté comme de l'autre. Voilà.
Là, c'est l'American Jewish Committee.
Non, c'est le lendemain de la guerre.
C'est enregistré, faut parler dans le micro.
Oh, pardon. Mais oui, le lendemain de la guerre, il y a quand même le problème qui est le problème de l'indépendance nationale en France avec les gaullistes. Ce qui n'est pas tout à fait le même problème que vis-à-vis de l'ensemble des communistes. Parce qu'il y a quand même la volonté qui est la volonté américaine au lendemain de la guerre,
oui,
d'assurer une tutelle sur l'ensemble de la France et l'ensemble de l'Europe,
oui,
occidentale.
Oui. Oui.
Y compris contre le projet qui est le projet gaulliste d'indépendance,
oui, tout à fait,
affirmé, etc.
Reconnaître
c'était un
Gaulle,
peu sur ces
voilà.
questions-là,
oui,
effectivement.
Oui, oui.
Parce que bon, l'anticommunisme, il est assez,
oui, bon, c'est,
il est très
ça,
classique,
c'est,
très
c'est,
carré.
Et c'est plus tard.
Pas,
c'est plus tard, oui.
Ceci dit, il faut donner aussi que dans la communauté juive, je ne connais pas de statistiques, alors je ne sais pas si toi tu en as vu ou pas, mais dans la communauté juive au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les opinions politiques sont aussi extrêmement multiples. Je veux dire,
multiples,
tu as une frange probablement aussi importante que le reste du pourcentage de la société française en faveur des communistes, des gaullistes, etc.
Exactement.
Donc ça ressemble finalement à la société française.
Et ce qui se voit dans la bienfaisance, je dis pas, c'est pas le mot bienfaisance, mais dans l'aide sociale, on voit que c'est très très divisé. Et une organisation très importante, c'était l'Union juive pour la résistance et entre elles, l'UJRE, qui était une organisation juive communiste, que le Joint subventionnait, même jusqu'en 53. Et en 53, avec l'affaire des blouses blanches, c'est là où le Joint a arrêté ses subventions des organisations communistes en France. Voilà.
Attendez, monsieur, il faut que je vous donne le micro. Et on a 5 minutes maintenant. Non, non.
Pas peut-être que quelqu'un voulait poser une question. Donc, je veux simplement savoir quelles étaient les sources de financement du judaïsme américain œuvrant en Europe.
En fait, je vous ai parlé de United Jewish Appeal. Donc, le Joint. Donc, cette organisation est assez unique. Aux États-Unis, à la fin du 19e siècle, les organisations juives d'aide sociale ont commencé à travailler ensemble. Et ils ont créé ce que s'appelle les fédérations. Les fédérations, c'était des organisations qui étaient responsables de récolter des fonds et de les distribuer parmi les différentes organisations membres. Donc, si quelqu'un voulait être membre de la fédération, c'est-à-dire qu'il s'engageait à ne pas récolter de fonds à côté. Cette structure donc, existe. Les Juifs américains, ce sont des premiers à le faire aux États-Unis, mais c'est une structure qui se répandit aux États-Unis pendant la Première Guerre mondiale avec les community chests. Et c'est une façon de récolter des fonds pendant la Première Guerre mondiale. Les Juifs américains donc, utilisent cette structure de fédération, mais les fédérations avaient du mal à travailler, à se relier entre les villes américaines. Donc chaque ville avait sa fédération qui distribuait de l'argent aux organisations privées de l'aide juive. Mais en 1939, donc après la nuit de cristal en 1938, finalement, tous les conflits entre zionistes et sionistes, on dit en français, n'est-ce pas, entre sionistes et non-zionistes, anti-zionistes, etc. Il a tous les c'est une communauté qui a également ses divisions internes. Tous ces conflits sont apaisés le temps de créer une structure nationale qui relie les fédérations. Donc les fédérations ont eu un pied vraiment dans les communautés et ils ont des techniques de recoupe de fonds qui sont assez créatives dans le sens où ils ont un profil sociologique, une vision sociologique sur, sur les juifs dans cette ville et ils disent bah, ici il y a une population séfarade, on va regarder la telle profession et telle profession et on voit qu'au sein de chaque groupe professionnel les juifs tenaient des réunions, ils avaient un responsable de section et comme ça ils ont pu instaurer des pratiques de philanthropie dans chaque couche sociale et donc si on était ouvrier on donnait selon ce qu'on gagnait, mais on n'était pas mise comparée à quelqu'un qui était banquier.
Pourquoi tu dis Sepharad?
Non, par exemple, c'était ils avaient donc une division de la population juive. Donc, comme les Sepharades sont minoritaires aux États-Unis, ils ont fait des groupes de femmes, ils ont fait des groupes de juifs Sepharades, ils ont fait des groupes selon les professions. Et donc, par ce découpement de la population de chaque ville, ils ont réussi à mettre en place ce qu'on appelle en anglais peer pressure, mais une vraie pression de pairs pour donner de l'aide. Et donc cette structure qui était donc enracinée dans la culture juive américaine dès fin 19e siècle a été nationalisée en 1939. Et puis après la guerre, c'était le moment de réagir. Donc ils ont dit en 1945, ce que vous donnez cette année, on ne va pas demander que vous répétez ce don l'année prochaine. Et ils avaient des dons records. Et par exemple, la première année, ils ont récolté en 1939, le United Jewish Appeal a récolté à peu près 16 millions de dollars. Et en 1947 ou 1948, 200 millions de dollars. C'était une des réussites de la philanthropie américaine. Ces chiffres sont exceptionnels pour les États-Unis en général.
Bon, bah, écoute, je te remercie. Merci d'être sorti de Polytechnique pour venir nous voir.
Avec plaisir.
Écoute, tu me donnes toujours autant envie d'aimer l'histoire, alors merci.
Donc, on se dit au 21 janvier, oui. À la prochaine conférence. Vous pouvez venir avant l'espace Mendès France si vous voulez.